Je vous interromps juste pour faire un petit disclaimer. Cet épisode est le chaos total, c'est-à-dire qu'on rigolait énormément. C'est pour ça qu'il y a des cuts qui sont assez bruts, parce qu'il y a des private jokes et des choses que je ne peux pas partager sur internet. Mais cet épisode me tenait vraiment à cœur parce qu'on parle de films que j'ai aimés ou détestés, mais en tout cas dont j'avais envie de parler et dont les invités autour de la table avaient envie de parler. J'ai bégayé, mais je le garde au montage. Et du coup, je trouvais ça vraiment dommage de pas le publier, donc je le fais quand même. Mais sachez qu'on a bu, qu'il y avait des voisins qui criaient et qu'on rigolait beaucoup trop fort toutes les 2 minutes. Voilà, je vous ai prévenu, encore désolée, et merci pour l'écoute.
Eh bien bonjour et bienvenue dans Fricotons Ensemble, le podcast cinéma où l'on donne nos avis sans la moindre pudeur. Je vais d'abord présenter le programme d'aujourd'hui, puis les personnes qui y participent. L'émission va se dérouler en 3 parties. D'abord le tous en scène où nous parlerons d'un film que nous avons tous découvert à l'occasion de ce podcast. Ensuite la recommandation, qui est tout simplement une recommandation, faite par l'un d'entre nous en rapport avec le thème de l'émission. La personne devra essayer de vendre ce film aux auditeurs, tandis que les autres valideront ou non son choix, afin de décider si elle se retrouve élue chroniqueuse de l'année ou bien lapidée en place publique. Et pour conclure, le adieu les cons, nous lirons chacun notre tour une critique hallucinée négative sur un film connu, afin de le faire deviner aux autres. Mais je reviendrai plus en détail sur chacune de ces parties au moment voulu. Pour mener à bien tout ce programme, je suis aujourd'hui en compagnie de Macarena.
Hello.
Et de Brett.
Salut.
Et bien maintenant que les présentations sont faites, on passe dès à présent au tous en scène. Would you keep me safe from the things that hurt my mind? En lumière les adaptations d'animés en live action. Et pour cette première partie, nous avons tous découvert le film Death Note, produit par Netflix. Le film est réalisé par Adam Wingard, Dium Leviosa.
Je sais pas si on peut faire moins dans le contexte, moins en rapport.
Et t'as même pas réussi à enchaîner.
Parce que je me fais rire seule. Au casting, on retrouve Nat Wolff, William Dafoe, Margaret Qualley ou encore. Je vais avoir besoin de ton aide, Brett, pour lire ce nom.
Lekith.
Ok. Quant au résumé, c'est juste un lycéen qui trouve un carnet qui peut tuer des gens enfin en suivant certaines règles. Et je vais pas tout vous expliquer parce que ça va être beaucoup trop long vu que c'est un film à concept. Et si on détaille tout le concept, et ben ça marche plus, du coup.
C'est logique.
C'est le concept du film à concept.
Pas mal ça.
Voilà. Je vous préviens, dans cet épisode, j'autorise le spoil, parce que comme c'est des adaptations en plus des films, on risque de parler des œuvres de base, et ce serait ultra contraignant de devoir faire des phrases détournées tout le temps. Donc voilà, vous êtes prévenus. Du coup, je vais commencer par toi, Macarena. Déjà, avant de donner ton avis sur le film, où tu te places par rapport à l'œuvre de base?
Je vais être énervée. Parce que j'adore... J'allais dire One Piece.
Oui, bah oui.
Bien sûr. Ah, je suis fatiguée.
Oui, bah c'est vrai.
J'adore One Piece. Mais j'adore Death Note aussi. Alors moi déjà de base, Death Note c'est un de mes mangas préférés, parce qu'il est incroyable. On va pas se mentir, voilà, magnifique. Donc, je m'attendais à rien, parce qu'en général les adaptations de mangas qui plus est, on connaît, américaines qui plus est,
Netflix qui plus est,
ça fait beaucoup. Et ben j'ai été déçue, voilà, ils ont bien pas respecté l'œuvre, ça m'a fait mal au cœur. Bon déjà le premier truc sur lequel j'aimerais revenir c'est le scénario. Qui je trouve est hyper mal foutu. En fait, je pense que si tu connais pas l'œuvre de base, tu dois être perdu et tu comprends pas ce qui se passe. Parce que, genre, ils ont enlevé tellement d'éléments. Bon, je sais que c'est compliqué de faire entrer genre 12 livres dans un film, quoi. Et qu'il y a plein de trucs que tu dois passer tout. Mais, genre, là, rien que comment elle, il va deviner qui est Kira, genre, ça va beaucoup trop vite et il y a trop d'éléments qui sont passés et tout. Et ça a aucun sens que le mec, en 5 minutes, t'as l'impression qu'il a trouvé qui est Kira et tout.
Ouais, bon. Ça arrive trop tôt dans le film, enfin, ouais. C'est pas cohérent. Et surtout, du coup, j'ai l'impression que si tu connais pas l'œuvre de base, tu peux pas comprendre. Mais en même temps, si tu connais l'œuvre de base, tu fais que le rattacher à ce que tu connais.
Ouais, voilà.
Et du coup, tu peux pas l'apprécier.
Ouais.
Donc, enfin, de tous les points de vue, c'est raté. Parce que normalement, un film et surtout une adaptation, ça doit pouvoir se prendre en tant en lui-même, tu vois, sans avoir besoin de comparaison.
Bah ouais, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Tout le long, en fait, moi j'ai fait que comparer avec le film, avec le livre.
Les livres,
il y en a plein. Et enfin, en fait, ça m'a il y a trop d'incohérences. Genre, il y a plein de trucs qui vont pas, même au niveau juste. Le truc de base, c'est quand même les règles du Death Note, c'est pas compliqué. C'est le truc de base le plus important. Ils les ont ratés. Genre, le mec écrit Watari, qui est un surnom, et ça marche. Alors que la règle de base, c'est tu connais le prénom et la face de la personne.
Et le nom aussi.
Oui, enfin le nom, le prénom quoi.
Oui.
Donc en surnom, ça ne marche pas. Donc déjà, ça m'énerve. L'histoire de la crise cardiaque, le truc de base, ça, on s'en bat les couilles. Les morts. Pourquoi faire des morts gore? Ça n'a aucun sens. Genre le truc, ça part en destination finale, même la fin, ça n'a aucun sens. Genre la roue, elle se pète, ce machin, qu'est-ce que ça fout là?
Non, en fait, ça n'apporte rien, je pense. Surtout, c'est pour plaire à un public américain qui est habitué à voir ça.
Netflix. C'est aussi, aussi simple que ça. Et ça ouais. explique aussi la durée du film. Seulement 1h30 pour résumer autant de tomes de manga. Fallait faire un film rapide, un film court, un film qui allait beaucoup rapporter. Et tout a été adapté pour le médium Netflix.
Pour le médium Netflix, c'est aussi, je pense, ouais, vraiment pour le... Enfin, pas forcément pour le public occidental, mais c'est vrai que ça fait plus à la tranche d'âge qu'ils essayent de viser. Parce que c'est pas le même public qui va regarder un film Death Note que ceux qui vont lire les livres Death Note.
Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un énorme whitewashing dans le film, que tout se passe aux États-Unis plutôt que le Japon. Et même la psychologie des personnages qui a été réduite à néant. Maintenant, c'est juste une histoire de « Ah, je fais le bien, ah, je fais le mal, et en fait, machin... » C'est devenu ridicule, justement à cause de ça, à cause de la durée du film, et parce qu'il fallait plaire au public de Netflix.
Mais après aussi, le whitewashing, sur le fait que ça se passe en Amérique, c'est mieux, parce que si ils voulaient vraiment faire un truc et qu'ils connaissaient pas du tout la culture japonaise, vaut mieux qu'ils l'américanisent. Mais ils pouvaient l'américaniser mais en faisant quelque chose de bien. Parce
vrai.
Que s'ils connaissent pas les codes de la culture japonaise, ils pouvaient genre juste détruire un pan de leur culture et faire de l'appropriation culturelle et genre rater encore plus, tu vois. Alors qu'en l'américanisant, ils connaissent leur culture normalement, donc ils peuvent en faire un truc bien. Là, ils ont raté, mais dans l'idée, ça peut être... Enfin, moi, je trouve ça mieux que de...
C'est vrai, mais normalement, quand tu fais une adaptation de manga qui est japonais, tu dois au moins te renseigner un minimum sur la culture japonaise. Donc, dans tous les cas, c'était un travail aussi à faire qu'ils ont pas voulu faire, parce que, toujours pour les mêmes raisons.
Non, moi, je pense qu'ils ont pas lu, surtout. Parce qu'à ce niveau-là,
ils l'ont pas compris. Parce que déjà, le fait que ce soit gore, j'ai l'impression qu'ils voulaient aussi jouer un peu sur le côté film d'horreur. Ouais. Avec l'apparition de Ryu.
Alors que ça n'a pas du tout un manga d'horreur.
Parce que c'est un thriller psychologique et eux, exactement. Ils voulaient vraiment jouer sur le gore, sur le body horror. Enfin, pas forcément sur le body horror, parce que je peux pas appeler ça comme ça, mais...
Non, mais sur le gore, oui. Rien que le premier meurtre, la scène de décapitation
Mais c'est la scène la plus violente.
C'est l'une des scènes les plus violentes, oui, et c'est vrai qu'elle est vraiment hardcore. Et je me rappelle, en ayant vu cette scène, voir la tête du mec qui est vraiment par terre, comme ça, avec le cerveau qui se répand partout, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Alors que dans l'œuvre de base, c'était tellement sobre. Et c'est là où on voit tout le problème du film, c'est on se débarrasse de toute la psychologie et on va sur le sensationnel. La roue qui explose et qui tombe, les décapitations, les gens qui écrivent avec leur sang dans les murs des prisons. C'est fallait faire du sensationnel.
Mais ça, ils le font aussi dans le manga.
Oui, mais moins, et c'est moins montré.
Mais parce qu'ils le montrent moins, parce que c'est pas le cœur du film.
Exactement, mais justement, c'est ce que je veux dire. Le cœur du film, là, c'est sensationnel. Fallait faire parler du film, fallait mettre du gore, fallait mettre des scènes un peu olé-olé avec Mia, elle s'appelle comme ça, c'est ça. Mia, bon encore, ils ont été plutôt soft, et d'ailleurs ça m'a surpris dans une adaptation Netflix que ce soit aussi soft. Mais bon, fallait mettre des scènes de ce genre-là, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et c'est dommage.
Ouais.
C'est dommage.
Bah en fait, ça fait très teen movie au final, genre.
Oui.
C'est vraiment l'histoire de deux ados qui se pécho et tout, ça n'a rien à foutre dans l'histoire.
Oui, enfin, ça n'a pas.
Ça apporte pas grand-chose et tout. Et puis même au niveau de. Ouais, tu dis le côté psychologique et tout, les personnages sont totalement ratés quoi.
Il n'y a plus aucune psychologie. Voilà. Exactement. Exactement. Si on voit juste le personnage de Kira, dans l'œuvre de base, c'est un adolescent qui est vraiment tiraillé entre le fait de devoir rester normal aux yeux des autres, d'essayer de passer un peu sous couverture et surtout auprès de son père et de sa famille. Et d'un autre côté, c'est un tueur en série monstrueux et il est aussi partagé, c'est le lecteur qui est partagé entre cette vision de c'est un dieu de la mort qui tue des gens, mais en même temps il débarrasse le monde de criminels. Là, tout l'aspect psychologique, il a été perdu. C'est juste lui qui est là pour faire le bien, soi-disant. Et sa copine, elle est là pour faire à peu près le mal, en fait. Parce que c'est un peu elle l'antagoniste du film. Et on n'a plus du tout cet aspect, j'allais dire versatile, mais c'est pas ça. Mais cet aspect ambigu au niveau des personnages. Il n'y a plus aucune balance, il n'y a plus aucun... il n'y a plus aucune ambiguïté. C'est juste des personnages qui sont gentils, des personnages qui sont méchants. Ouais. Et on joue avec ça. Et c'est et même, terriblement dommage.
Genre, à la base, Light est censé être un manipulateur parce que du coup, il faut qu'il cache aux yeux des gens, mais il se sert aussi des gens pour arriver à ses fins. Mmh. Et là, il manipule jamais parce que du coup, il cache rien. Il est ultra dans l'émotion tout le temps. Genre, il gueule contre son père, il se montre faible ou des trucs comme ça, ce qu'il ne ferait jamais. Et en fait, quand il le fait justement dans le manga, c'est montré comme une erreur parce que c'est ça qui le fait perdre. Ouais. C'est là où elle prend de l'avance sur lui, c'est à ces moments-là. Et du coup, dans le film, il fait que ça. Donc, du coup, forcément, elle, il arrive vite aux conclusions.
Oui.
Bon, déjà, c'est mal foutu comment c'est fait.
C'est très mal amené.
Mais du coup, normalement, Light n'a pas à être dans l'émotion parce que c'est pas son caractère. Et là, c'est même pas une question de... Tu peux adapter librement une œuvre, mais là, c'est tu ne reprends pas le même personnage, alors, parce que c'est plus Light.
Le personnage est totalement différent.
Ouais, ouais.
Sans compter la psychologie, on a aussi l'intelligence qui a été, qui a été retirée.
Elle a été nerfée.
D'ailleurs, non, il a perdu 20 points d'intelligence. Mais, et c'est ça aussi que j'ai trouvé dommage, c'est que dans le manga, elle, il est présenté comme un personnage intelligent, et il prend des décisions intelligentes tout le long, alors que dans l'adaptation Netflix, il est seulement présenté comme un personnage très intelligent, avec de très bonnes notes, machin et tout, qui est très perspicace, machin, alors qu'en réalité, il ne fait rien d'intelligent. Et comme par magie, à la fin, il pense à tout et il anticipe le plan de Mia en mettant son nom à elle dans le Death Note, et en prévoyant sa mort, et en prévoyant comment elle allait le tuer, et on se dit, mais d'où est-ce que ça sort? Parce que pendant tout le long du film, il lui a fait confiance aveuglément pour qu'au final, elle le trahisse, il a même pas pensé à ça, il a donné beaucoup d'informations à elle, il a même pas pensé à se cacher, il a pas osé tuer son père, alors que dans le manga, si ça avait été comme ça, il l'aurait totalement fait, parce que, voilà, et ouais, c'est juste, il est terriblement débile, et à la fin, comme ça, d'un coup, il a un éclair de génie, il devient Einstein, et il pense à tout, et c'est très très mal fait, les personnages sont mal écrits,
ouais,
bah, et lui, c'en est le pire exemple.
Même elle, on te dit, oui, ça va être le meilleur, comment on dit,
détective
et tout du monde, alors que le mec, il présente, enfin, normalement, il est entraîné et tout, et là, c'est présenté comme un mec qui est super impulsif et tout,
c'est vrai.
T'as l'impression qu'en fait, c'est juste un psychopathe. Et ça représente pas du tout le personnage, quoi.
Mais surtout, il se montre dès le début, il montre son visage.
Ça, c'est complètement con, genre...
Il dit comment il se présente, quoi. Il n'utilise pas de vocodeur, etc., alors que dans le manga, il le fait.
Bah ouais.
Parce qu'il est censé être sous couverture, en fait. Et même, ça se voit qu'ils ont essayé de plaire à un autre type de public, parce qu'ils font une course-poursuite. Il n'y a aucun moment dans un Death Note où tu verras une course-poursuite. C'est pas le...
Ah non, mais dans un moment, c'est Tokyo Draft ou je sais pas quoi. Pourquoi?
Ça sert à rien, enfin, genre,
Même la. Déjà, au niveau de la réalisation aussi, le moment où il entre Yawatari qui va dans le truc abandonné, là, l'orphelinat abandonné et tout, c'est le seul moment qui est filmé différemment du reste. Genre, t'as l'impression d'être dans. Tu vois, les trucs de films d'horreur un peu.
Ça fait un peu Resident Evil.
Voilà, tu vois. Et pourquoi ce changement? Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Bon, ça, c'est pas le scénario, c'est la réelle, mais...
Non, bah, c'est aussi important, parce que c'est genre l'élément majeur d'un film, la réelle. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, ça, c'était pas... Rien qu'un truc aussi qui m'a beaucoup fait mal, c'était les plans au ralenti, qui
étaient au début,
très réguliers.
Ouais,
même à la fin, il y en a beaucoup. Genre, quand Light et Mia tombent de la grande roue, c'est gros plan au ralenti. D'ailleurs, les expressions faciales de... Comment il s'appelle l'acteur principal? Wolf
Son nom de famille, c'est Wolf, et son prénom, Nat.
Oui, voilà. Les expressions faciales de Nat Wolf sont dégueulasses. Et il y a des gros plans ralentis là-dessus. C'est vraiment pas esthétique. Et bon, là, pour le coup, c'est vraiment que des choix purement esthétiques et purement plastiques. Mais ça ne marche pas du tout. C'est pas beau. Le film n'est pas beau non plus.
Oui.
Il n'y a aucune esthétique dans ce film.
Mais moi, ce qui m'a fait... Encore, à la fin, quand les personnages tombent, je veux bien qu'il y ait des ralentis. Parce que, par exemple, il y en a dans The Amazing Spider-Man et ça marche.
Genre... C'est vrai que moi, ça me fait beaucoup penser à ça, à la scène où elle tombe, là.
Voilà. On n'est pas censé spoiler les amis.
Pardon, ouais, mais t'as dit qu'on pouvait spoiler, c'est bon.
Spoiler,
qui a pas vu Spider-Man en
2022?
Moi. Voilà, je vais quitter le podcast. Et...
Mais du coup, oui, ça peut marcher dans ce genre de séquence, mais moi, ce qui m'a le plus dégoûté, c'est les séquences au ralenti, mais au début, genre en scène d'intro, le ralenti avec le zoom qui s'approche de Light pendant qu'il écrit un truc ou qu'il est assis, et pendant que Mia elle fait du cheerleading ou je sais pas quoi, je sais
ouais
pas
non elle est pom-pom girl, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça,
c'est ça.
Et je trouve ça, en séquence d'intro, je trouve ça ultra cliché, alors que vers la fin, bon, après le truc c'est que c'est récurrent, mais s'il y en avait que vers la fin, ça passerait mieux.
Ça passerait, oui, c'est sûr. Après, pour le coup, pour la séquence d'intro, c'était très, comment dire, symptomatique, entre guillemets, du film, c'est-à-dire que la séquence d'intro t'annonce la couleur, c'est un teen movie américain, et c'est pas du tout une adaptation d'un thriller psychologique.
Pas du tout.
Pas du tout. Mais dès la séquence d'intro, c'est là où je me suis dit, ce n'est pas une bonne adaptation. Et du coup, j'ai essayé de me... comment dire, d'oublier cette vision avec le manga et d'essayer d'oublier qu'il y avait un manga derrière en me disant ce n'est pas une adaptation, c'est pas une mauvaise adaptation, c'est juste un mauvais film. Et en l'occurrence, oui, c'est vraiment juste ça, parce que c'est une très mauvaise adaptation. Très mauvaise.
Alors que toi, de base, t'aimes pas forcément le manga.
Le manga, je suis pas fan. Je suis pas fan. Déjà, la deuxième partie m'a vraiment...
comme beaucoup, vraiment... mais là, il n'y a même pas adapté dans le...
Et la première partie, alors j'ai plutôt aimé la première partie, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment dérangé. Mais pour le coup, le film, ça a été catastrophique. Et je préfère, mais un million de fois, la première partie du manga au film. Il y a aucun débat. Il y a
aucun temps.
La première partie du manga est pas mauvaise en soi. C'est juste que voilà, bah, j'ai mon petit affect et moi c'est pas quelque chose qui m'a énormément plu. Mais le film c'est un raté. C'est un raté complet. Par contre, il y a de belles musiques. J'ai trouvé que les musiques étaient plutôt pas mal et l'ambiance sonore était pas dégueulasse. J'ai plutôt aimé. Surtout la musique à la fin sur la scène de la Grande Roue justement. Les choix musicaux m'ont beaucoup plu. Après, c'est un peu mon style. Il y avait beaucoup de rock, de rock des années 80-90, un truc comme ça. C'est plutôt ma came, mais la musique du film m'a beaucoup plu.
Mais ça fait très teen movie actuel d'utiliser des musiques des années 80-90.
C'est vrai.
Donc ça, il y a tout le cliché de. Mais même la scène où il rencontre Ryuk là. J'ai ri. C'était tellement ridicule.
C'est vrai que c'était
ridicule. Sa manière de jouer, elle est. Waouh!
Mais déjà, ils montrent quasiment jamais Ryuk parce qu'ils l'ont mal fait, donc ils ont la flemme. Bah, encore une fois, c'est juste une histoire de flemme. Et peut-être de moyens, mais.
C'est super dommage parce que, en fait, tu t'attaches pas du tout au personnage. Tu ressens pas du tout les mêmes trucs que dans le manga pour les persos. Genre, Ryuk, par exemple, moi, c'est un perso que j'adore, tu vois. Et qui, justement, il est complexe parce que, en fait, il s'amuse, c'est un enfant et tout. Et il prend part pour aucun, tu vois.
Genre, il est plus ou moins impartial. Enfin, genre, je veux dire, il a pas de préférence. Voilà. Alors que dans le film, il en a. Enfin, il l'aiguille clairement sur ce qu'il doit faire.
Ouais.
Alors qu'il est pas censé faire ça.
Mais surtout qu'en plus, et puis il le montre un peu comme en méchant, en mode oui, c'est sa faute et il a tué je sais pas qui, les trucs du FBI, etc. Ouais. Il avait pas faire ça, nanana. Alors que là il prend carrément parti et tout, ça change.
Mais normalement, si tu tues des gens, dans l'œuvre de base, il est censé mourir, je crois. Parce que c'est comme ça que Rem elle meurt.
Ah, c'est vrai, je sais plus exactement c'est quoi.
Parce qu'elle empêche. Non, c'est parce qu'elle empêche Missa de mourir qu'elle meurt.
Ouais.
Donc ça fonctionne pas exactement pareil, mais je crois qu'ils ont pas le droit de tuer des gens comme ça, quoi.
Ouais, non, mais de toute manière, ils ont pas du tout suivi les règles,
oui,
alors.
C'est sûr.
Bon. D'ailleurs, l'histoire de brûler la page, ça y est dans le manga, parce que je m'en souviens pas du tout.
Je crois que oui.
Ah ouais ?
Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que ça y était, oui.
Et en soi, s'ils l'ont rajouté, c'est pas une si mauvaise idée.
Ouais. Mais par contre, la manière dont c'est terminé pour la.
Oui, oui, bon.
Pour la fin, c'est saugrenu, dis donc.
Non, mais ils ont tenté sensationnel, on va dire. C'est le mot pour le.
Ouais.
Ah, d'ailleurs, la fin était vraiment labyrinthique, hein, pour le coup, c'était compliqué. Et encore une fois, je reparle de ce que je disais tout à l'heure sur l'intelligence de Light. Même la personne la plus intelligente du monde n'aurait pas pu prévoir autant de choses. C'est pas possible. Il y avait tellement un dédale d'anticipation et de prévision. C'était vraiment catastrophique. Et même à voir, c'était. On se perdait, je trouve, la fin. On se perdait un peu parce que justement c'était mal amené, encore une fois. Et on aurait dit que le scénariste commençait à paniquer en écrivant. C'est mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? Et il a dû trouver un moyen pour.
Il s'est dit il me reste que 10 minutes.
Je veux mes 2000$, voilà. Putain. Je vais finir cette merde. Mais du coup, oui, la fin est rushée en tout cas. Ouais. C'est comme tout le film.
Vraiment, en fait, tout le long du film, je me suis dit mais comment ils vont amener la fin? Parce que en connaissant le truc original, il y a trop d'éléments manquants, comment ils vont s'en sortir là-dedans? Et bah mal. Relativement mal.
Du coup, oui, tu parlais des musiques en point positif, moi je les ai pas forcément relevées, donc quand je relève pas un truc, c'est ni que c'est positif, ni que c'est négatif pour moi, donc en général je m'en bats la race, résumer ça comme ça. Ce que j'ai noté en point positif, déjà il y en a que deux, c'est les lumières. Personnellement, j'ai bien aimé les lumières, surtout dans la première rencontre, je crois que c'est dans un diner ou un truc comme ça, ouais. Entre elle et Light. Je crois que c'était très bien foutu.
Ouais, je suis d'accord.
Ça arrive pas souvent, et comme la réelle est pas très belle, je pense que c'est assez important pour le noter, parce que sinon il y aurait pas de points positifs, donc on fait comme ça. Et les noms américanisés. Parce que, encore une fois, j'aurais trouvé ça vraiment compliqué que Light s'appelle Light Yagami. Et du coup, le fait qu'il s'appelle Turner, c'est vraiment moche.
Oui, mais c'est très moche.
Ils auraient pu choisir n'importe quel autre nom, mais ça passe mieux. Enfin, je suis contente qu'ils aient pas repris ça, tu vois. Ouais. Parce que ça aurait pas très bien passé. Bon, Misa, ils auraient pu garder Misa, mais bon, Mia, ça passe aussi. Déjà, dans les différences qu'il y a avec le manga, il y en a plein, et je vais pas toutes les recenser, parce que déjà, ça n'a pas forcément d'intérêt de juste comparer les deux, parce que bah, c'est deux œuvres différentes. Mais par contre, il y a des choses qui font que le manga est intéressant, qu'il n'y a pas dedans, et du coup je trouve ça triste. Par exemple, le fait que Light, il est censé être ultra demandé par les meufs, et du coup quand être ultra détaché par rapport à ça, parce qu'il a plus ou moins rien à foutre, parce qu'il ne s'attache à personne. C'est ça qui le rend un personnage intéressant, enfin une des caractéristiques, qui le rend intéressante. Et du coup quand il rencontre Misa, ça fait que... il accepte d'être avec elle seulement parce que c'est dans son intérêt. Alors que là, il n'y a aucune notion d'intérêt. Encore une fois, il est tout le temps dans l'émotion. Et juste, il se laisse embarquer par ça parce que c'est la, entre guillemets, méchante du film, l'antagoniste. Et c'est elle qui va le manipuler au final. Mais du coup, ça n'a plus tant d'intérêt. Enfin, autant faire le film sur Mia, enfin, en tout cas l'équivalent de Mia. Parce que sinon, du coup, Light, c'est une coquille vide, parce qu'il se fait balloter entre Ryuk et elle, et elle, Mia, et elle, le personnage. Et du coup, lui, il a rien... Enfin, je comprends pas son intérêt, en fait, dans le film, parce qu'il n'apporte rien concrètement à l'histoire.
C'est vrai, et ça montre d'ailleurs une autre incohérence, c'est que si c'est un personnage aussi émotif que ça, et aussi, comment dire, pas impulsif, mais je veux dire vraiment épidermique dans l'action immédiate et dans l'émotion pure, pourquoi est-ce qu'il a continué à tuer des gens ? Il aurait totalement arrêté, et toutes les scènes en mode il a peur de Ryuk, il est surpris, la première scène où il voit Ryuk dont tu parlais tout à l'heure, tout ça, ça part dans ce sens de je vois le cahier, je vois que ça peut faire tuer quelqu'un, je le pose immédiatement et j'arrête tout de suite. Mais non, il a quand même continué, et ça c'est encore une incohérence vis-à-vis du même pas vis-à-vis du manga, mais dans le scénario lui-même. Ils ont réussi à faire une méta-incohérence qui est quand même assez impressionnant. Mais oui, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écriture du personnage qui est catastrophique.
Ouais, bah au final, Mia, elle a plus le caractère de Light que Light lui-même. Ça n'a pas de sens, quoi. Lui, il n'aurait pas été là, c'était pareil, quoi.
En fait, je pense qu'ils ont enlevé au maximum les caractéristiques de Light pour qu'on puisse... pour que, en tout cas, le spectateur lambda puisse s'identifier à lui. Parce que c'est vrai que Light, dans le manga, est tellement...
Il est
particulier et très ambigu.
C'est
compliqué, mais justement, c'est grâce à l'écriture qui est vraiment, vraiment ultra efficace dans le manga qu'on arrive quand même à lui trouver des choses qui, même si on s'identifie pas, nous font comprendre la psychologie du personnage. Et là, comme ils savaient qu'ils allaient pas bien l'écrire, ils se sont dit on va faire juste une coquille vide comme ça. Le lambda, le mec qui lance Netflix un vendredi à 21h, hop, il se met dans ses petites pantoufles, il suit son histoire.
C'est un peu insultant d'ailleurs au final d'avoir une telle réduction psychologique d'un personnage juste pour dire oui bah les gens c'est des cons et il faut leur servir de la soupe vraiment froide et plate pour qu'ils puissent comprendre. Je trouve ça terriblement insultant de la part des producteurs.
Et c'est ce qui arrive souvent chez Netflix. Et c'est ça qui est dommage. Et encore plus quand t'adaptes une œuvre aussi importante que celle-là. Enfin, à la limite, si vous voulez vraiment adapter et juste tout changer, bah tu reprends le concept de base, mais tu le changes. Tu gardes pas les mêmes personnages, tu les nommes différemment, tu l'appelles pas pareil. Même si tu utilises la mécanique du Death Note, tu l'appelles peut-être pas Death Note, parce que c'est une autre histoire. Et du coup, juste tu reprends le concept, mais c'est pas une adaptation.
Les scènes que j'aimais trop dans mon manga, elles n'étaient pas du tout dans le film. Genre le moment où, par exemple, il y a le truc avec, il est dans un paquet de chips, il met la télé, etc. Il fait tout un stratagème. Ou juste le truc de, il cache le Death Note dans le tiroir.
C'est un peu iconique comme...
Voilà, et sur mode, bah, elles sont où? J'ai besoin, donnez-moi à manger.
Mais t'as une course poursuite à la place, ouais, excuse-moi. Mais
je suis un petit peu déçue, hein, excusez-moi.
Vous l'aurez compris, nous avons un avis assez tranché sur ce film, mais au moins nous sommes tous d'accord, c'est déjà bien. Ma question d'ouverture est la suivante, les adaptations live-action d'anime ou de manga devraient-elles se faire seulement par des japonais?
Oh, moi je dirais pas forcément, parce que bah, y a des adaptations par exemple de Death Note en japonais qui sont pas non plus excellentes, quoi. Elles sont quand même un petit peu mieux que ce qu'on a vu là. Bon après, de toute manière, de ce qu'on a vu des trucs américains, En général, c'est quand même très décevant. Plus que les adaptations japonaises, quand même.
T'imagines, en France ?
Bah,
il y a eu Nicky Larson, mais...
Bah, je pense pas que ce soit une question d'origine, justement. Bah tiens, tu parles de Nicky Larson. Le film, je ne l'ai jamais vu, mais il a été plutôt bien reçu par la critique.
Bah, même c'est le...
Et en les général... fans du manga n'étaient pas tellement...
Ouais, en général, apparemment, c'est le Philippe Lachaud qui passe le mieux.
Oui.
Et j'ai pas de mal à le croire, oui. Parce que rien au niveau bande-annonce, c'est celui qui me donne le plus envie. Je l'ai toujours pas vu, faudrait peut-être que je le regarde.
J'ai vu la critique du joueur du grenier dessus, il était pas outré par le truc. Il a pas dit que c'était le meilleur film de la décennie ou quoi, mais il a pas craché dessus plus que ça. En vrai, je pense pas que ce soit une question d'origine géographique, c'est vraiment une question de budget et d'intention. Ouais. Parce que les intentions de Netflix, c'était juste mettre le minimum d'argent dans un film pour en rapporter le plus, vu le succès qu'a eu Death Note en manga et en animé. Et ouais, c'est juste une question d'intention et de budget. Si on arrive à avoir un réalisateur et une boîte de prod qui mettra les thunes qu'il faut et qui mettra l'intention qu'il faut pour réaliser un bon film, pas forcément fidèle à l'œuvre, mais en tout cas respectueux du médium de base, on peut tomber sur un très très bon film.
Ouais, bah oui, parce qu'au final, dans ce film, ce qui dérange, c'est pas forcément que ce soit tourné à New York, enfin c'est à Seattle, je crois. Ou bref, voilà, que ce soit en Amérique et tout, que ça se déroule, quoi. Ça, ils sont plutôt bien débrouillés, justement, comme tu disais, pour les noms américains, etc. Même au niveau des acteurs, comme on voit, ils ont été changés, par exemple, c'est pas des japonais et tout, il y a que Watari, mais au final, ça, c'est pas ça qui dérange le plus, quoi. Donc ouais, ça vient pas forcément là, mais c'est surtout. Bon, faut s'intéresser un peu à l'œuvre et faire un effort.
Mais du coup, genre, est-ce que si par exemple il y a une adaptation dans n'importe quel manga en France, c'est mieux que. Enfin, fait par des Français, c'est mieux que ça se passe au Japon et qu'ils gardent les noms japonais ou c'est mieux qu'ils se passent en France et que vraiment ils changent tout le décor et qu'ils gardent juste le concept ?
Pour éviter justement ce que tu disais sur des incohérences au niveau de la culture et tout. Si ils savent pas, s'ils bossent pas assez ce côté-là, vaut mieux que ça se passe en France et que ce soit plus cohérent, quoi. Que...
Mais j'ai l'impression que même si tu bosses beaucoup, tu auras toujours des gens pour crier à l'appropriation culturelle. Ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire qu'il faut pas se mouiller, mais comme ça reste mon avis, c'est pour ça que je vous demande à vous, si à votre avis c'est quand même mieux de le faire dans la culture de la personne qui produit le film ou pas.
Sans forcément parler d'appropriation culturelle, parce que c'est quand même un sujet très très compliqué à manier, et je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de
ça. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle, tu vois, il y a beaucoup de gens qui en
ont. Ouais, voilà, c'est ça. Même si ça se passait en France, justement, encore une fois, tant que c'est respectueux du médium de base, tant que les règles principales sont respectées et que l'intention est bonne, je pense que ça peut se faire. C'est vraiment une question de volonté, pour le coup.
On passe maintenant à la recommandation. Ici, c'est moi qui me suis chargée de vous recommander un film que j'ai apprécié, mais que vous ne connaissez pas. Et pour pimenter un peu la chose, c'est une adaptation d'un manga que vous n'avez pas lu. Donc, pas de comparaison possible pour cette partie. Normalement, je ne suis pas censée m'exprimer directement sur le film, juste vous donner ses meilleures qualités pour que vous alliez le voir. Mais personne comprend comment fonctionne cette séquence de l'émission, donc je vais me permettre de le faire, parce qu'après tout, c'est mon émission et je vous emmerde. Nous allons donc parler d'Ikigami, préavis de mort. Sorti en 2008 d'une durée de 2h10 et réalisé par Tomoyuki Takimoto. On retrouve au casting beaucoup trop de gens parce que c'est une sorte de film choral, donc je ne vais pas les citer et je m'en excuse, mais si vous avez besoin de le savoir, Wikipédia à votre avis. Ce film nous parle de la loi pour la sauvegarde de la prospérité nationale. Tous les ans, un programme de vaccination obligatoire est mené lors de la cérémonie de rentrée en primaire. J'ai bégayé mais je vais le garder au montage. Au terme de ce programme, un jeune sur 1000, entre 18 et 24 ans, est condamné à mort à cause de la nanocapsule contenue dans le vaccin.
Non, bah moi j'ai beaucoup aimé le film, voilà, j'ai pas d'analyse particulière à faire parce que bah, je l'ai vu il y a pas tellement longtemps, parce que je suis peu professionnel, mais j'ai beaucoup aimé le film, c'était 2 heures qui sont passées rapidement, je trouve, malgré le fait que, j'allais dire contemplatif, mais le film n'est pas contemplatif, mais contrairement à Death Note, le film prend son temps pour montrer les choses. Et il y a des plans qui me font penser à des films d'auteurs, en fait. Genre des plans inutiles, entre guillemets, de vie quotidienne. Le personnage qui marche sous la pluie avec son parapluie, une barrière qui se relève. Ce genre de plan où tu te dis, il ne sert pas à grand-chose, mais ça participe à l'ambiance, ça participe à poser quelque chose. Et le film fait 2 heures. C'est 2 heures qui sont passées tranquillement, qui sont bien passées. Et je suis quand même plutôt content de l'avoir regardé. Et je connaissais pas du tout ce film d'ailleurs, donc merci pour la découverte au passage. Mais ouais, c'est un bon film, c'est un très très bon film, j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis encore une fois, tout l'aspect tout l'aspect politique, la critique sociale qu'il y a sur ce film est quand même monstrueuse, et ça a l'air d'être quelque chose qui un thème qui est assez récurrent dans le dans les médias japonais, le fait que l'État puisse puisse contrôler à ce point la population, puisse forcer les gens à avoir toujours de meilleures notes en classe, de meilleurs résultats au travail, etc. Donc c'est un film qui traite très bien ce genre de thème, et j'ai beaucoup beaucoup apprécié le film. Je saurais pas trouver des points négatifs comme ça parce que je suis encore à chaud, mais c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup plu.
Moi je suis d'accord sur tous les points que t'as abordés, j'ai aussi beaucoup aimé le film. Et bah pareil, les 2 heures sont passées assez vite, je trouve. Pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Je regarde un petit peu les avis et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu long, etc. Mais après, c'est un style quand même japonais, souvent, de faire des films qui sont un peu plus contemplatifs, même si c'est pas forcément le cas. Et déjà, il est très émouvant. Voilà.
On a pleuré.
Ouais, un petit peu, hein.
À peine.
Une bassine.
Tu m'as envoyé de toi tes joues ruisselées de larmes.
Voilà, bon, très dramatique. Et moi, ça m'a beaucoup donné envie de regarder le manga quand même, de lire le manga plutôt. Oh, j'ai dit un truc qui m'a fait mal à la gorge. Mais ouais, déjà le scénario, il est quand même assez intéressant, cette idée-là. C'est un peu une dystopie, quoi, de cette idée de...
C'est une dystopie.
Oui, voilà, c'est clairement une dystopie. Et c'est super intéressant, le sujet est vraiment très intéressant. En plus, j'ai vu que c'était très fidèle à l'œuvre. Moi je connais pas, du coup je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai vu, c'était très fidèle à l'œuvre. Il y a des gens qui disaient même voire trop, mais bon. Alors ouais, des fois j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs qui étaient voire trop dramatiques. Enfin, par exemple le fait que ça soit... Bon, je vais spoiler un peu, je suis désolée.
Non mais on a dit que pour aujourd'hui c'était ok.
Bon bah c'est bon. Que ça soit la sœur aveugle qui perd son frère, en plus de ça, ça fait quand même beaucoup dans une vie, je pense. Mais donc il y a des moments qui sont très très dramatiques et voire très poussés, mais après si c'est dans le manga comme ça, je comprends.
Oui,
après moi j'ai quand même chialé de toute manière, j'étais pas en mode oh la vue.
Ah oui. Donc, bon.
Tu pleures pour ça, t'as pas honte, franchement. Franchement.
Non mais voilà. Genre, je trouve qu'on arrive quand même à bien ressentir de la compassion pour tous, pour tous les personnages, quoi. Même par exemple la mère du... celle qui est candidate là pour être présidente de je sais pas quoi. Bah en fait on arrive bien à ressentir de la compassion pour tous, alors que c'est des gens assez lambda pour la majorité, et ils sont pas forcément représentés comme les bons gentils. On suit leur vie, par exemple le premier, on voit que bah il se prend un peu la tête avec son pote, et que on peut se dire ouais il le suit pas et tout. Enfin, comment expliquer ça? Oh putain. Enfin, par exemple, on peut se dire, ouais, c'est un peu en bâtard, il a son pote de côté pour aller vers la gloire ou quelque chose comme ça, machin. Mais au final, bah, c'était super émouvant qu'il lui fasse un hommage, pareil, etc. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que tu vas avoir de la peine pour cette perso-là. Et je trouve que c'est quand même bien mené. Et au niveau de la réalisation, bon, les plans, on reste assez basiques pour la plupart. Il n'y a pas des trucs hyper phénoménales, mais ça va avec le style du film.
Mais justement, en fait, ça joue pas sur le sensationnel, voilà. Parce que l'histoire est déjà assez importante comme ça. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter. En fait, ça desservirait le coup du film d'en rajouter tout le temps.
Juste au niveau de la réalisation, j'ai trouvé un truc vraiment, vraiment cool. C'était les plans caméra de surveillance.
Ouais, moi aussi, ouais.
C'était le seul détail qui détonnait un peu.
Ouais,
ouais, voilà, qui détonnait un peu du reste, qui faisait un peu contraste. Mais en soi, c'était pas une idée de fou, genre c'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça sortait un peu de la monotonie de la réa.
Elle est bien dans le film parce que ça fait un peu 1984, genre un peu Big Brother.
C'est lié avec avec toute la thématique de l'État qui veut contrôler la population.
Mais du coup, ça rentre bien dans le film, surtout même vers la fin quand il a cette discussion avec son directeur et tout, enfin quand il se fait un peu redresser par le conseil, et que du coup c'est vraiment ça, il y a toute une séquence qui dure un peu plus longtemps que les autres où tu les vois par la caméra de surveillance. Je trouve que ça rend bien pour finir le film
là, ça fait très ce plan là il faisait très j'allais dire science-fiction, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas c'était dystopique en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était vraiment absolument dans le thème, avec cette espèce de conseil de gens un peu, même pas un peu, totalement froid, totalement détaché de la vie, qui juge quelqu'un au milieu d'une pièce sombre, juste éclairée par un seul spot. C'était aussi très, très inspiré de tout ce qui est dystopie, tout ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup plu. Mais ouais, les plans caméra surveillance, rien que la séquence d'intro par exemple, elle était vraiment cool.
Ouais.
Avec ce type qui court au milieu des gens, filmé par les caméras de surveillance. Et, et le dialogue qui pas le dialogue le monologue qui tourne en fond c'était vraiment bien au niveau de la réalisation cette idée là en tout cas était cool.
Ouais, même ça donne en fait t'as l'impression que tu te places sur plusieurs points de vue, tu suis le mec comme si du coup tu travaillais avec lui etc, et là d'un coup t'as un recul de ah oui c'est vrai on est dans une société contrôlée et t'as l'impression d'être à la place de ces mecs là. Si moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué au niveau du son, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où quand c'est très calme, t'as juste un bruit de respiration. Et je trouve ça intéressant parce que vu que c'est l'histoire de tu suis comment ils vont mourir leur dernière journée, etc. Et ce truc, c'est très léger mais ça m'a vraiment marqué parce que ça revient très souvent.
J'avais même pas fait attention, mais maintenant que tu le dis.
Mais je trouvais ouais, ça apportait un truc à l'ambiance, quoi, alors que ben, ça s'entend à peine quoi, mais. C'est un truc qui m'a marqué. Après,
Ouais, d'ailleurs tu parles de son, je me rappelle de cette scène où. Il y a un des personnages qui fixe l'horloge et il y a le son de l'horloge qui devient de plus en plus prenant. J'ai trouvé ça un peu cliché, mais encore une fois, c'est juste tellement efficace. C'est tout con en fait, parce que les bruits d'horloge, bah voilà, c'est utilisé dans plein de films, dans plein de, bah, d'animés ou quoi que ce soit. Mais c'est juste vraiment efficace. C'est vraiment la progression de la mort qui arrive et qui est inarrêtable. Et tout ce genre de petits trucs. Encore une fois, c'était peut-être pas des idées extrêmement innovantes, mais elles étaient très bien utilisées.
Mais en fait, pris au cas par cas, quasiment tout ce qu'il y a dans le film, c'est cliché. Genre même le fait que ça tombe souvent dans le pathos, et tu penses que ça va pas marcher, et ça te prend quand même à chaque fois.
Ouais.
Genre à chaque fois, tu te dis, ouais, mais c'est grave cliché, genre la meuf, c'est une connasse et tout, et elle veut quand même essayer d'utiliser son fils alors qu'il va mourir. Et tu pourrais te dire, bah je vais pas tomber pour ça, parce que c'était dès le début, tu vois ce personnage, et tu savais qu'il allait servir quelque chose. Et tu tombes quand même.
Ouais.
Et ça le fait à vraiment à chaque fois, et même quand tu te dis ouais mais dans tous les cas ils vont mourir, tu le sais, et sa sœur ça va pas marcher parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a une heure de décalage etc, et ça ne marchera jamais, tu vas jamais avoir de l'empathie pour lui et t'en as quand même.
Ouais.
Et encore je trouve que même à ce niveau là il y a des petits twists de temps en temps, par exemple quand Naoki il va au meeting de sa mère pour l'assassiner
et il le fait pas,
je m'attendais à tous les coups à ce qu'il balance une balle entre les deux yeux, et au final même pas.
Ouais.
Même pas, il tire à côté, et d'ailleurs je pensais aussi qu'il allait mourir à cause des nanoparticules.
Ouais.
Même pas, il se fait tirer dessus aussi, donc même dans les séquences les plus clichés il y a des petits twists quand même qui
Ouais, moi je pensais qu'il allait se tirer sur sa mère et se suicider juste après.
Ouais.
Et ça l'a pas fait, et ce qui m'a le plus surpris plus que sa réaction, c'est le flashback qui est.
Ouais.
Oui.
Moi je m'attendais pas à
ça. Et ça, je trouve ça ouf. Et ça fait un rappel au film où ça arrive au tout début, où genre le mec à côté du personnage principal se fait embarquer et subit la même chose qu'a subi sa mère à Naoki il y a quelques années avant ça. Et même du coup, le fait que ce soit un film choral où il n'y ait pas vraiment de personnage principal, enfin on suit quand même tout le long le seul personnage qui va vraiment vivre en fait, parce que c'est le seul qui va nous permettre de passer d'une histoire à une autre, mais c'est pas vraiment le personnage principal. Et on arrive quand même à s'attacher à chacun des persos, même quand on les voit pas longtemps. Et du coup, c'est ultra immersif, parce qu'en 2 heures, te faire attacher à chaque fois à, du coup, 3 personnes qui vont mourir, plus au, entre guillemets, perso principal, plus à leur famille à chaque fois, à ces 3 personnes qui vont mourir, en 2 heures de film, c'est quand même assez brillant d'arriver à te faire accrocher à autant de personnages.
C'est vrai. Ouais. Je m'attendais d'ailleurs à ce que ce soit avant de réaliser la durée du film, je m'attendais à ce que ce soit un espèce de court-métrage, entre guillemets, et que ça s'arrête sur... comment dire, sur la première histoire avec les deux chanteurs, et puis après ça a continué, je me suis dit est-ce qu'ils sont pas en train de se perdre un peu, parce que là ils ont fini là-dessus, c'était très bien, ils auraient totalement pu s'arrêter, et en fait ça a continué et je me suis rendu compte que c'était important parce que du coup ça a apporté des précisions sur le monde dans lequel ils vivaient, sur cette femme qui va devenir en tout cas gravir les échelons, se faire élire je ne sais plus quel poste. Et en fait c'était utile, et ils ont réussi à continuer toujours avec ce fil rouge mais en employant d'autres personnages, donc c'était très très bien, c'était très très bien mené je trouve,
et surtout c'est
très bien. Le scénario était très bien écrit,
oui c'est bien rythmé, parce que là où tu penses que tu vas voir que du cas par cas, à la fin les deux dernières histoires se mélangent. Et tu passes d'une, en fait la première est juste pour te montrer l'exemple, tu vois, tu penses que la toute première mort, c'est le mec qui va voir son harceleur. Et c'est vraiment la séquence d'intro pour te montrer comment ça marche. Et tu penses que c'est ça le tuto et que tu vas pas aller plus loin. Et sauf qu'en fait, c'est une mise en bouche du premier
cas. Du vrai tuto. Et c'est ça qui est. C'est un tuto de tuto.
Voilà. Et après, une fois que t'as bien compris le système, pour t'apporter des nuances et pour te montrer différents types de profils qui peuvent être touchés par ça, on te montre d'autres personnes à différents âges. Parce que aussi Naoki, je crois qu'il est plus jeune que...
Il a 20 ans.
Voilà, alors que l'autre, il en a 24, je crois, ou 23.
23.
Mais il est un peu plus vieux, donc t'as différents profils qui viennent pas du tout des mêmes mondes.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé ça aussi intéressant que au meeting de cette femme, il y ait beaucoup de monde. Ça montre aussi que, mine de rien, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce truc. Et ça... Comment dire ? C'était pas juste vraiment... scindé en deux, genre il y a des gens qui sont vraiment pour et qui sont aveuglés par la société, et il y en a qui sont vraiment contre parce qu'ils arrivent à lire entre les lignes du système.
Oui.
C'était, c'était assez partagé aussi à ce niveau-là. Et puis même, franchement, j'ai aimé le fait que ce soit pas trop tranché, même si la critique elle est quand même assez évidente, c'était pas non plus ultra tranché et c'était quand même intéressant à ce niveau-là.
J'aime bien la plupart des acteurs, parce que les Japonais, ils ont quand même une certaine façon de jouer qui est différente de ce qui peut se passer en Occident. Des fois, ils exagèrent un peu plus les traits ou des choses comme
surtout
ça.
Surtout dans les adaptations live action.
Voilà. Et là où, des fois, je pouvais avoir cette impression, en vrai, dans le plus gros du film, je l'ai pas tellement ressenti. Je trouvais que les acteurs étaient quand même plutôt bons pour la plupart. Surtout le perso, entre guillemets, principal, en tout cas celui qu'on va suivre du début à la fin. Il reste quand même attachant, alors qu'il est plutôt froid. Enfin, il laisse quand même transparaître des émotions de plus en plus jusqu'à la fin du film. Mais il fait pas non plus tout pour être attachant, quoi. Il a pas tellement d'histoire, on connaît rien sur lui. Et t'arrives quand même à apprécier le suivre.
Parce que c'est un peu notre vecteur, en fait, qui nous...
Oui, c'est pour
ça. C'est juste lui... C'est un peu comme un véhicule, quoi. Il nous accompagne dans, la, dans oui. l'histoire et c'est lui qui nous trace la route.
Pour un personnage fonction, je trouve qu'il est quand même vraiment bien foutu. Ouais. Et je trouve que l'acteur est très convaincant.
L'acteur est bon. Dans l'ensemble, les acteurs étaient plutôt bons. Même les second rôles, entre guillemets, ceux qu'on voit pas trop, genre le père de Naoki. En soi, son rôle, il est pas extrêmement important. C'est pas l'acteur qu'on voit le plus dans le film. Il a pas une part de... Il n'a pas un temps à l'écran gigantesque non plus, même lui c'est un plutôt bon acteur, je trouve. Ils se sont bien débrouillés avec les acteurs, le casting était bon.
Je sais plus vraiment de quoi on a parlé. Si oui, on a parlé de la trame et de l'intrigue, mais pas qu'elle était pas linéaire, parce qu'il y a des flashbacks, on en a vite fait parler au moment où on parle de Naoki et de sa mère, et je trouve qu'ils sont vraiment bien amenés parce qu'ils ne cassent jamais les rythmes. Je trouve qu'ils tombent toujours au bon moment. Et t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour comprendre que c'est un flashback et tout. Enfin, il y a un peu peut-être cet effet un peu
sépia
sur la réal, mais même au début, là où tu pourrais te perdre un peu avec les musiciens entre les passages où ils étaient tous les deux et le passage où ils commencent à jouer avec un autre musicien, c'est bien amené, c'est bien rythmé, tu comprends assez vite. T'as pas besoin d'en faire il y a 5 ans en fait, j'étais musicien et je jouais dans la rue. Ou des choses que tu pourrais avoir dans certains films qui là sont pas présents. En fait, ils font pas dans la facilité. Ils essayent toujours de trouver des moyens détournés de t'amener là où ils veulent. Si en point négatif, j'avais juste du coup le premier cas qui est pas vraiment développé, qui est juste là l'introduction du tuto quoi, qui est vraiment cliché. Mais pour le coup, dans le manga, c'est le vrai premier cas qui là est un peu plus développé.
Il est plus développé dans le.
Okay, oui. Là, c'est bah déjà il tue plusieurs personnes.
Ah oui.
Enfin il viole une meuf aussi.
Ah oui, d'accord.
Ça va plus loin.
Ouais. Oui, parce que moi je m'attendais à ce que du coup on retrouve cette histoire un peu plus tard. Et c'était le seul truc où je m'étais dit j'ai pas trop compris pourquoi du coup il y avait eu ça. Et qu'on nous avait pas plus développé dessus quoi. Mais après ça donne aussi un sort de twist. Parce que par exemple moi je démarre le truc. Je me dis ça va être un film un peu tu vois les Yakuza ou ce genre de truc. Ou règlement de compte en fait, pas du tout quoi. Et au final tu pars sur autre chose. Et c'est juste le tuto.
Et c'est là où on voit que c'est une bonne adaptation, c'est qu'ils ont compris le matériel de base, ils ont réussi à en faire quelque chose qui passait à l'écran. Alors, je me base seulement sur ce que tu dis, parce que malheureusement, j'ai pas pu lire le manga, j'irai te les voler d'ailleurs au passage. mais c'est là, du coup, où on voit que c'est une bonne adaptation, et surtout, résumer aussi autant de tomes en 2 heures de film, c'est quand même un tour de force, surtout que le film se résout bien. Rabelais va me tuer. Le film se résout bien, je trouve. Il y a quand même un dénouement à l'histoire et c'est pas juste terminé comme ça parce que ça fait 2 heures et il faut s'arrêter maintenant. C'est il y a une fin, elle est amenée et ça se termine en douceur entre guillemets. On voit le début, on voit le milieu, on voit la fin, c'est bien fait.
En fait, je trouve ça même assez fou que à travers tout ce qui se passe, et ça reste des morts quand même, enfin, on suit l'histoire de gens qui vont mourir, ça se termine quand même plutôt bien dans le concept en fait. tu sais que ça va être triste à un moment ou un autre, et t'arrives quand même à t'apporter une sorte de douceur. Et je pensais pas que ça pouvait aussi bien se terminer la première fois que j'ai vu le film. Je pensais que ça allait être forcément ultra triste, parce que ça reste des histoires de gens qui meurent. Ouais. C'est pas forcément drôle.
Juste, moi, la scène qui m'avait marquée, c'était du coup, quand il parlait, là, qu'on les voit dans la caméra, il parle avec son directeur. Cette scène-là, juste l'image, ça faisait très manga, du coup, je trouvais. Genre, je voyais ça très bien dans une planche, avec juste les deux bonhommes qui sont, genre, silencieux, tu vois, et juste qui se contient comme ça, ça m'a fait juste vraiment penser
rentre. Ouais, une adaptation d'une case, quoi, comme ouais, si c'était redessiné un peu, parce qu'en plus, avec l'effet un peu caméra de surveillance, ouais, c'est un peu flou, pixel et tout.
Voilà, cette scène, elle m'a grave marquée juste pour ça, quoi, vraiment.
Moi, ce que j'ai bien aimé, je crois que je l'ai pas abordé, c'est la musique. Le thème musical est souvent le même, il est juste repris avec plusieurs instruments, donc piano, ouais, violon, des trucs comme ça, selon les moments. Et je le trouve vraiment, vraiment bon. Ouais. Alors, le thème musical, pas la musique du début qui joue à la guitare, qui est bien aussi.
La musique était cool.
Panneau par direction, contre, ça m'a fait rire.
La musique était cool, par contre, j'ai trouvé que le chanteur chantait assez mal.
Il chantait faux.
Yeah, oui. C'était assez. C'est... Bah, après, ça. C'est un peu aussi pour l'identification et la. Comment dire et... Bah, tu t'attaches, quoi, tu dis, ah, ouais, bah, voilà, bah, je pourrais chanter comme ça aussi.
Il est sincère.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Il est sincère. Comme Grégory Le Marchal.
On revient à chaque fois en plus. Toujours, hein.
Toujours.
Le chat, il se mord la queue. C'est ça pour moi. Pour moi, c'est un chat. Écoutez.
J'adore les expressions qui sont reprises.
Mais oui, le beluga qui se met la queue, c'est inconnu. Du coup, nous sommes plutôt d'accord, encore une fois, sur ce film, mais cette fois-ci avec un avis positif. C'est plutôt pas mal, ça nous fait oublier le vomi.
Ouais, ça fait bien.
Pardon, pour ma question d'ouverture, est-ce mieux qu'une adaptation reprenne à la lettre l'œuvre de base dans un autre média, ou est-il préférable qu'il y ait des différences? Je vous laisse peut-être Brett pour commencer.
Alors oui, parce que j'ai un exemple en tête. Shining de Kubrick, qui est une très mauvaise adaptation, mais un très bon film, parce que ça n'a rien à voir avec le bouquin de King, mais en même temps c'est un très très bon film, et voilà, bon, acclamé par la critique un peu tard, parce que il était un peu saqué par le métier au début, mais si en soi c'est un très bon film, mais c'est une mauvaise adaptation, parce que ça n'a plus rien à voir, et donc oui, je pense qu'on peut faire de très bons films sans forcément respecter le média de base. Après, il faut juste être honnête dans sa démarche et dire que c'est une adaptation libre, ou alors juste reprendre les règles, l'œuvre de base dans les grandes lignes et faire son film. Mais en soi, oui, je pense que c'est possible. Tu veux que je recommence?
Non, c'était bon.
D'accord.
C'est juste moi, j'ai retenu une blague au dernier moment, parce qu'on a dit, c'est... Il faut juste reconnaître qu'on est libre, j'allais dire, comme notre couple, à tous les deux. Et je me suis dit non, parce que les gens ne nous connaissent pas, donc ça va juste être gênant si je fais cette blague. Mais du coup, ça m'a fait rire toute seule.
T'aurais pu la faire, en vrai, t'aurais pu la faire.
Ouais, mais je me suis
dit, faut pas se retenir.
C'est comme mon discernement tout à l'heure.
Mais ça, c'est pas une blague.
Oui.
C'est du vent. C'est
du vent.
Si tu vois de la mort, c'est tout.
Comme toutes mes relations sexuelles. Non,
je vois de la mort. Alors d'abord elle prend des mouchoirs, ensuite elle souffle très fort, et après elle laisse la magie opérer.
Mon clitoris est dans mon nez.
Mais c'était quoi la question?
Du coup, est-ce que c'est mieux qu'une adaptation reprenne à la lettre l'œuvre de base, ou juste dans un autre média, ou est-ce que c'est préférable qu'il y ait des différences?
Ah oui, c'est vrai. Bah déjà je trouve qu'il a quand même tout dit. Enfin, je suis d'accord avec quasiment tout, quoi, donc...
Wormtiller, pas bon.
Je viens de me rendre compte au montage qu'on n'a pas du tout fait de transition entre la partie recommandation et la partie adieu les cons. Du coup, voilà, je suis désolée, je vous l'exprime, moi, la Elisa du futur, pour vous dire qu'on est bien à la troisième et dernière partie de l'émission.
Alors, à côté, Dora l'exploratrice est un chef-d'œuvre du 7ème art.
Tomb Raider.
Alors pourquoi?
Parce que Dora l'exploratrice.
Premier film en image de synthèse tellement désolant que cela a signé l'arrêt de mort des bons vieux dessins animés. Il ne manquerait plus qu'un tennisman qui se mettrait à jouer dans un opéra. Et puis là, on touche le fond. Des martiens à trois yeux, Comme de par hasard, même les maternelles les faisaient comme ça. Et puis les pauvres enfants, quelle éducation, ils vont croire jusqu'au bout de leur vie. Qu'est-ce qui se passe dans ce film va se passer dans la réalité? Ils n'en dormiront plus.
Monstre et compagnie.
Ils en feront des cauchemars, non, et vont psychoter. Non mais allô quoi, t'es un film pour enfants, tu fais peur, c'est comme si t'es une Game Boy et t'as pas de pile. Le seul côté positif à ce film est sans aucun doute Barbie qui parle, qui n'a jamais voulu entendre la douce voix de Barbie qui représente bien son stéréotype.
Le dernier Toy Story?
Le premier.
Le premier?
Parce que premier film en image de synthèse.
Ah, bah, ah c'était celui-là.
Ah.
D'accord. Je peux?
Oui, oui, vas-y, fais-toi plaisir.
La critique est longue. Hein. Tiens. Pas grand-chose à voir au cinéma en ce week-end de Pâques, donc j'ai craqué pour voir la fin de cette série, j'espère enfin, où je n'ai jamais adhéré. Caricature raciale insupportable et super lourde à mon goût. Mais comme certains disent que c'est la meilleure des trois, bon bah voilà. Vraiment pour moi, rien ne t'a sauvé, acteur et tout le reste, à voir cette famille bourgeoise hypothétique et pathétique. Caricature sur caricature, surjouée pour tirer notre rire. Ouais.
Oh, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu.
Bien joué, exactement.
Parce que le 2 c'est clair, on a encore fait au bon Dieu.
Exactement, comment tu sais ça?
Je sais pas.
Elle a des posters d'écriture clavier chez elle.
Et écrit ça.
Et un costume du Ku Klux Klan du coup. Ça va ensemble.
Premier point. On peut très bien faire tenir le scénario d'un film de 3 heures sur un demi-post-it, même en utilisant les petits modèles de post-it. Il est même probable que les dialogues ô combien profonds puissent tenir sur l'espace restant libre du dit post-it.
Compliqué.
Deuxième point, ouais, mais j'adorais l'allusion au post-it. On peut avoir un nombre appréciable d'acteurs reconnus comme étant de grands acteurs quand le scénario, les dialogues et la direction d'acteur n'est pas là, il en ressort que le meilleur acteur du film est une boîte de conserve. Encore que je me demande si le trou noir n'est pas à féliciter aussi, il est vraiment excellent lui aussi.
Un Interstellar.
Oui.
Et bien voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. Je laisse les chroniqueurs vous dire au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Sur ce, portez-vous bien et fricotons ensemble. It's still better than yesterday.